Le point de départ de notre analyse, c'est de comparer l'expérience qu'on a d'Internet sur un ordinateur fixe et l'expérience qu'on a d'Internet sur un mobile. On se rend plus compte, en fait, de l'immense liberté qu'on avait sur un ordinateur fixe. On peut installer tous les logiciels qu'on veut, on peut choisir les moteurs de recherche qu'on veut, le navigateur qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut avec nos données. Il y a une vraie liberté d'utilisation. Et cet Internet extrêmement ouvert, eh bien, c'est terminé. C'est-à-dire que le smartphone est un peu une prison dorée.
Mais en quoi l'accès va être restreint pour certains consommateurs, que ce soit sur les tablettes ou sur les écrans portables ou même dans sa voiture ou dans son électroménager?
Moi, je trouve que l'exemple qui est le plus frappant, c'est de se dire que vous pouvez acheter un smartphone à 1000 euros. Dessus, il y a des applications que vous ne pouvez même pas supprimer. Un autre exemple qui, lui, est très structurant, c'est celui des magasins d'applications. Vous ne pouvez installer sur votre téléphone que des applications qui viennent du magasin d'applications X. Alors parfois, suivant les marques de téléphone, vous pouvez parfois installer des magasins alternatifs, mais c'est extrêmement compliqué et vous êtes très désincité à le faire. C'est-à-dire que c'est Android ou Apple qui a officiellement tamponné, approuvé votre application et qui a permis qu'elle soit accessible pour les consommateurs, qui a permis que la version 1.2 soit accessible, la version 1.3, peut-être qu'il a refusé la version 1.4. Et ça, on s'y est habitué. On s'y est d'autant plus habitué que ça s'est accompagné d'une innovation. Avant, on avait Internet seulement à la maison, maintenant on l'a dans la poche. C'est génial, reconnaissons-le. Mais on a accepté que cet Internet nomade, que cet Internet mobile, soit un Internet rétréci.
Mais alors, ça pose des problèmes parce que de plus en plus, notre société se tourne vers l'Internet des objets. Vous me parliez des GAFA, mais maintenant, ce sera des fabricants d'objets du quotidien qui pourront restreindre encore cet accès.
Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il y a deux exemples qu'on peut citer. Le premier, c'est la voiture. Le deuxième, c'est la télévision. Le point commun entre les deux, c'est la commande vocale. C'est-à-dire que de plus en plus, vous allez utiliser la fameuse commande vocale. Alors aujourd'hui, les objets qui sont les plus populaires sont ces fameuses enceintes connectées qu'on est censé mettre dans son salon. Vous allez passer à la commande vocale. Ça veut dire que vous êtes au volant de votre voiture, vous allez dire à votre système, je voudrais écouter de la musique. Contrairement à une recherche comme on en faisait avant sur un bon vieil ordinateur fixe, la voiture va vous mettre directement un truc qui va correspondre à vos habitudes, à vos choix. Peut-être qu'il y aura un endroit dans lequel vous pourrez mettre vos préférences, mais vous aurez des choix par défaut. Et on voit que ces choix par défaut, ils sont extrêmement structurants. Vous pourrez avoir des accords commerciaux qui auront été passés entre, par exemple, la voiture et donc sa commande vocale, et, par exemple, une marque de grande distribution. De telle sorte que quand vous demanderez à votre voiture, vous direz, bon, le matin, vous allez au travail en voiture, vous dites, bon, ce soir, j'ai un dîner. Est-ce que vous voulez que je fasse des courses? Oui. Donc je voudrais que vous achetiez des pommes de terre, vous faites comme ça la liste de vos courses, et à la fin, la machine vous dira, bon, c'est bien entendu, à quelle heure souhaitez-vous être livré, à 18h, à votre domicile, très bien, voilà, hop. Et on n'a pas discuté de savoir si on faisait les courses chez Casino, chez Carrefour ou chez Franprix. L'interface va prendre le pouvoir, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne, celui auquel vous allez parler, celui auquel vous allez vous adresser, c'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement le terminal, qui va prendre un pouvoir phénoménal avec l'Internet des objets. C'est vraiment la prise de pouvoir des objets et des terminaux. Et le réseau risque de devenir de plus en plus un simple transporteur d'informations neutre, intervenant de manière très faible sur ce qui se passe, toute l'information étant gérée à l'interface, c'est-à-dire à la périphérie du réseau.
Après, je peux me dire, je suis un utilisateur, j'ai envie de gagner du temps. Ok, je me déresponsabilise, mais je gagne du temps et je sais que les choix qui seront faits seront représentatifs de ma volonté. Pourquoi pas? On peut payer pour gagner du temps.
Mais vous avez parfaitement raison de vous faire l'avocat du diable, puisque justement ce qui est en jeu, c'est un pacte faustien. Et dans, par définition, dans un pacte faustien, vous avez un certain bénéfice.
Comme la publicité ciblée finalement.
Oui, absolument, mais absolument. Je ne suis pas en train de dire c'est mal. Ce que je souligne, c'est l'illusion qu'on peut avoir d'être dans un système libre. Et ça n'est pas le cas. On est dans un environnement lié, biaisé, qui va faire un peu des choix à votre place. Je ne dis pas que c'est mal. Simplement, ça me paraît être quelque chose qui est un peu mis sous le tapis et qui pourrait amener à des lourdes déceptions. Et c'est la raison pour laquelle la proposition que nous faisons, c'est de faire rentrer les terminaux dans la régulation. Aujourd'hui, nous ne régulons que les réseaux. Or, l'objet que nous régulons, ce que nous voyons, c'est qu'il est en train de perdre le pouvoir au profit de quelque chose qui est à l'extérieur de notre périmètre de régulation. Et donc, ce que nous proposons, c'est de faire rentrer les terminaux dans la régulation et qu'il y a un certain nombre de principes, qu'il y ait de la régulation, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle par la puissance publique. Il ne s'agit pas d'inhiber l'innovation, il s'agit simplement de faire en sorte qu'elle aille dans le sens de l'intérêt des utilisateurs, de faire en sorte que les marchés soient concurrentiels, qu'ils soient fluides, qu'on soit loyal vis-à-vis des consommateurs. C'est exactement, si vous voulez, ce que nous proposons, c'est vraiment d'étendre le principe de neutralité du net aux terminaux. Avec la neutralité du net, on garantit que la tuyauterie d'Internet est neutre. Avec ce que nous proposons sur les terminaux, c'est de faire en sorte que ce principe valent aussi pour les robinets d'Internet. Donc c'est terminer le boulot de faire en sorte qu'à un niveau technique, il y ait vraiment une neutralité, une liberté de choix des utilisateurs qui concerne leur accès à Internet. En revanche, on ferme les yeux sur ce qui se passe. Il ne s'agit pas de rentrer dans une régulation des contenus d'Internet. Et maintenant, c'est aux politiques de se saisir au nom de ces questions. Donc, c'est au gouvernement français et aux instances européennes, à la Commission européenne, de se saisir au nom de ces propositions.